France Culture.
En Afrique, depuis très longtemps, on fait du disco. À l'époque, on faisait des disques de 3 minutes ici. Il était courant de voir des productions aéroises de 7-8 minutes. Pour la bonne raison qu'instinctivement, les Africains sentaient qu'il faut que ce soit lancinant, donc il faut que ce soit long pour que ça crée l'envoûtement, pour que les gens vraiment y dansent. Everybody was kung fu.
Tout l'art consiste à garder ton public en éveil en alternant des morceaux très puissants, très énergiques et des passages plus tranquilles, plus doux, pour décompresser. Après, ça repart. J'ai appris qu'il fallait que ça monte et que ça descende.
France Culture, la série musicale Zoé Sfez.
Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les récits, de toutes les épopées. Une heure de radio sur la musique en musique, c'est la série musicale, bienvenue. Ce printemps sera disco ou ne sera pas, alors que s'ouvre à la Philharmonie de Paris une exposition assez géniale, consacrée au genre, à découvrir jusqu'au mi-temps de l'été. Vous avez donc le temps. Il est temps, justement, peut-être, de se pencher sur ce que c'est vraiment que le disco. Alors certains disent le pour le genre musical, d'autres la pour la musique ou la danse. Adoré, décrié, rejeté, considéré comme éternel recommencement. La disco peut être associée dans nos têtes à des images très fortes. John Travolta qui danse sur les Bee Gees, la boule à facettes, le studio 54, ses stars, la drogue. Le genre et le mot ont produit des images tellement emblématiques qu'on croit tout savoir de ce genre. En tout cas, on croit savoir de quoi, ou plutôt de qui, il s'agit quand on parle de disco. Or, rien n'est moins sûr, ni d'ailleurs sur sa date de naissance ou sa date de mort, si mort il y a. La disco n'est jamais morte, chante Juliette Armanet avec les derniers jours du disco, qui prouve bien pourtant qu'il y en a toujours. L'exposition de la Philharmonie de Paris est assez splendide et nécessaire parce qu'elle a un mérite, c'est nous faire réaliser qu'en fait, on en sait très très peu sur un genre dont l'essence et les protagonistes font souvent débat d'ailleurs, et qui jusqu'à tard, jusqu'à assez tard, voire récemment, a fait l'objet de très très peu de recherches universitaires. La disco, le disco, sont-ils nés en Europe avec le concept de boîte de nuit, invention française, et dans les oreilles de quelques Italiens et Allemands symphonisant, ou plutôt, en fait, à New York, juste après les émeutes de Stonewall, rassemblant des communautés alors marginales, les gays, les noirs, les latinos, les italo-américains. Les deux hypothèses sont potentiellement vraies, mais c'est en réalité plutôt la deuxième qui prévaut, vous allez l'entendre. Le disco est en fait surtout une histoire de convergence, et une chose est sûre, c'est avec ce genre que naissent plusieurs notions qui sont centrales dans notre vie d'aujourd'hui. Celle de dance floor, tout simplement, car avant le disco, on dansait quasiment jamais seul. Et puis, il y a cette figure majeure, encore jusqu'à aujourd'hui, celle du DJ, qui émerge avec le fameux call and response, cette relation de maître et de disciple que l'homme dans la cabine entretient avec ses danseurs et ses danseuses. Il existe bien des caractéristiques rythmiques à la musique disco, mais en fait, on peut qualifier aussi de disco avant l'heure des titres qui ne la mettaient pas encore vraiment en jeu. C'est ce récit qu'on va tenter de vous faire, un récit évidemment toujours subjectif et non exhaustif, en s'aidant d'un livre essentiel, de plus loin le plus sérieux sur la question et sur la naissance du disco, Love Saves the Day, du chercheur Tim Lawrence, qui reprend le nom de l'une des toutes premières soirées à inventer le disco. Car si le genre, et on peut même parler d'un mouvement disco, est né aux alentours des années 70, c'est bien parce qu'une partie de la jeunesse d'alors avait besoin de danser, certes, mais surtout, toujours, d'aimer. Change of mind while marching picket lines. La voix d'un homme dont on vous a déjà beaucoup parlé dans la série musicale, il s'appelle Eddie Kendricks. C'est en son honneur d'ailleurs que Kendrick Lamar s'appelle Kendrick Lamar, l'un des plus beaux falsettos de l'histoire de la musique, l'un des plus beaux falsettos de l'histoire de la soul, copié, on pourrait dire jamais égalé, qui est une des voix évidemment marquante de l'un des groupes de soul les plus importants des années 60 et 70, il est nommé The Temptations, groupe qu'il va quitter fin 70 pour mener une carrière solo qui va avoir du mal à démarrer avec ce deuxième album. Pourtant, eh bien, c'est le phénomène disco, en tout cas les tout premiers DJ des tout premiers clubs qui vont lui permettre d'émerger. Girl, You Need a Change of Mind est un morceau qui dure 7 minutes 30, on ne vous en joue que 4:30. Considéré comme l'acte de naissance en tant que genre ou style musical du disco. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est l'un des titres qui fait partie de la playlist de l'un des hommes qu'on considère comme l'inventeur du disco, en tout cas l'inventeur des conditions de ce qu'était la disco. Il s'appelle David Mancuso, c'est un New-Yorkais qui a grandi dans un New York un peu difficile, passé de foyer en maison de foyer de jeunes travailleurs. C'est un homme qui a garde de son enfance dans les foyers une capacité à fréquenter tous les milieux sociaux, à vivre en communauté et qui, après avoir déménagé dans un loft dans une partie de New York où peu de gens habitaient encore, va ouvrir un club qui est en réalité son appartement que les danseurs qu'il finira par inviter vont baptiser presque naturellement, organiquement, le loft. Et le loft, c'est sans doute l'un des lieux d'expérience les plus importants. C'est là que naît le genre, ou en tout cas, c'est là que naît l'expérience de ce qui n'est pas encore le disco. On bâtit ça l'ère pré-disco, et c'est ce récit que fait Tim Lawrence dans son livre « Love Saves the Day ». C'était le nom de cette première soirée qu'organise David Mancuso le soir de la Saint-Valentin. On est en 69. L'amour sauvera le jour. Évidemment, si vous prenez que les initiales, ça veut dire LSD. Car évidemment, David Mancuso est profondément influencé par les usages de la drogue qu'il a découverte et la pensée de Leary, qui est un des gourous de la drogue. Et il a découvert aussi l'existence de très très bonnes enceintes. Il a investi dans deux Cornwall et des Clipshorn, des enceintes qui vont changer son rapport à la musique, évidemment. En réalité, après avoir vécu plusieurs trips et une expérience presque d'ermite dans Manhattan, les soirées qu'il organise sont destinées à créer le même type de montée que celle qu'on connaît avec la drogue. Avec ses enceintes, il commence à jouer des morceaux qui, avec un matériel tout à fait sommaire à l'époque, qu'il commence à enchaîner, puisque je vous rappelle qu'à l'époque, le disque et les formats sont extrêmement courts. Et donc, le début du mix, c'est en réalité une manière pour David Mancuso de faire durer un morceau sans que les gens arrêtent de danser. Mancuso a vraiment, à ce moment-là, organisé un espèce d'espace qui n'est pas une boîte de nuit, puisque c'est un lieu privé, c'est ce qu'on appelle les rent parties, des fêtes qu'on organisait pour, en fait, à l'époque, pouvoir payer son loyer. Et c'est un peu dans ce genre de conditions que les Américains commencent à danser. Ces rent parties où on est invité, où on paye que 2 dollars par l'entrée. On y trouve un petit peu de nourriture sur les côtés pour pouvoir tenir. Et on y vit une fête qui nous permet d'aller au bout de la nuit et où l'objet principal devient fondamentalement la danse, alors que jusque-là, la danse n'était pas au centre de la vie nocturne new-yorkaise en tant que pratique. Elle était effectivement dans des nightclubs où on avait souvent des musiciens, des chanteurs, donc de la musique live, et quelques boîtes de nuit, quelques discothèques. Ces concepts arrivaient en fait de France, avec plusieurs grandes boîtes de nuit qui marchaient à New York, mais qui étaient déjà, à la fin des années 60, sur le déclin. Tout va basculer entre la fin de 69 et le début des années 70. I don't care about your past. I just want help. I love to last. About your thoughts, I just want to satisfy your faults. Oh, when you kiss me, when you miss me. Lorsqu'on étudie la chronologie des courants successifs de la musique noire américaine du XXe siècle, nombreux sont les ouvrages, thèses universitaires et autres sources qui omettent le disco ou minimisent sa place dans cette évolution. Alors, c'est l'une des thèses en réalité de Belkacem Mezian, l'auteur d'un livre sur les 100 titres du disco les plus importants de 1972 à nos jours, qui remarque, et on ne peut que lui donner raison, que quand on analyse ou quand on fait l'historiographie des musiques noires, on a tendance à aller de la soul à la funk, directement au hip-hop, sans passer par la case disco. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'évidemment, ce sont des figures plutôt blanches qui se sont imposées et qui sont devenues incontournables dans nos esprits. Oui, les DJ qui, en réalité, donnent naissance au disco sont plutôt des DJ blancs. Et puis par ailleurs, les musiciens, les grands producteurs qui seront les plus emblématiques du genre, Giorgio Moroder, puis Cerone par exemple en France, sont quasiment eux aussi tous blancs. Et pourtant, la musique sur laquelle ils s'appuient, la musique qu'ils mixent, la musique qui en fait va produire le son disco, c'est bien de la musique funk, d'ailleurs James Brown, est jouée par tous les DJ qui vont inventer ce genre dans cette fameuse ère pré-disco, on l'a dit, dans le loft, cette boîte qui n'en est pas une, qui est plutôt en fait un appartement, un lieu qui donne lieu à des soirées tous les samedis soirs, de plus en plus codifiées dans cet espace dédié vraiment à une espèce de montée de la conscience par la danse, mais aussi dans quelques lieux qui vont devenir très importants et qui, par une espèce de succession de tours de passe-passe, ils s'appellent Arthur ou The Sanctuary, sont des lieux qui vont rouvrir. C'était des boîtes de nuit sur le déclin qui vont être réinvesties, notamment par une population gay et latino de plus en plus importante. Et effectivement, ce qu'on y joue est par exemple l'hymne absolu des soirées, et notamment de la soirée de la Saint-Valentin de David Mancuso. Et c'est une chanson d'un groupe qui vient de Philadelphie et qui produit la funk la plus exquise de l'époque. J'ai nommé MFSB, qui va produire beaucoup d'hymnes fondateurs du disco et qui officie depuis Philadelphie, la ville de l'amour fraternel. We'll be right back. En 64, un saxophoniste camerounais qui s'appelle Manu Dibongo va composer Flotter drapeau sur Yaoundé, l'hymne officiel de l'équipe de football de Douala, pour la coupe du club des champions africains. En 72, c'est le Cameroun qui organise la Coupe d'Afrique des Nations et Dibongo va saisir l'occasion pour remettre un coup. Il va composer l'hymne de l'équipe nationale qui sort sur la face A et sur la face B, donc un morceau considéré comme moins important. Il va enregistrer un morceau assez funky, un morceau qui est inspiré par ce qu'il écoute et qui vient d'outre-Atlantique, à savoir James Brown, mais aussi par les rythmes totalement indigènes du Makossa, style moderne qu'il écoute et qu'il pratique. Figurez-vous que quelques mois plus tard, un disquaire de Brooklyn, qui est spécialisé dans les musiques afro-caribéennes, se retrouve avec ce disque. Et il tombe donc entre les mains de notre fameux David Mancuso, qui recherche toujours des sons de musique noire, de la funk, mais des sons aussi dits à l'époque exotiques. Il va commencer à le jouer sur sa fameuse piste de danse du Loft, qui va être repéré, ce morceau, toujours par un autre DJ, David Rodriguez. Et l'information de l'existence de ce son va passer de DJ en DJ. Tant et si bien qu'un an et demi plus tard, le label Atlantique va contacter Dibongo, le faire signer, et que Dibongo va se retrouver en première partie de nos camarades de The Temptation qu'on a entendu presque tout à l'heure. C'est ainsi qu'en fait, Soul Makossa devient, alors qu'il a été composé depuis le Cameroun, l'un des tout premiers sons dit disco. Est-ce que c'est parce qu'il est disco ou est-ce qu'au contraire c'est parce qu'il participe de cette première aventure? Ce que cette émission ne pourra jamais vous rendre, c'est en fait ce qui se jouait dans ses premiers clubs Arthur, The Sanctuary, Le Loft, c'est-à-dire l'espèce de couture que proposent les DJ et qui sont comme des performances impossibles à reproduire qui vont finir en fait par supplanter les musiciens live. Je rappelle que tous ces clubs, toutes ces boîtes de nuit, elles avaient des orchestres de musiciens qui d'ailleurs vont faire grève en se demandant pourquoi est-ce que ces hommes qui jouent de la musique enregistrée deviennent plus importants que eux. Donc impossible pour nous en fait de comprendre ce qui se joue. Le fait est que dans cette ère pré-disco, c'est la couture de son qui donne le disco, avant finalement que les morceaux enregistrés finissent par intégrer ces caractéristiques que produisaient les DJ, qui en fait consistaient à jouer sur les tempos de plusieurs musiques en faisant de la couture, de manière à ce que les danseurs puissent continuer à danser, et de plus en plus à ce que les danseurs soient obligés de danser. Il se trouve néanmoins que, pour Manu Dibongo, l'inventeur du disco, c'est bien lui.
Alors, j'allais dire qu'il ne faut pas oublier que l'histoire du disco, encore modestie mise à part, je suis le premier à avoir fait le disco. Le premier disco de l'histoire a été quand même Soul Makossa. Qu'est-ce que c'est un disco? C'est un succès des discothèques. Et le succès a commencé avec, il y a 5 ans de ça, avec ce morceau qui s'appelait Soul Makossa et qu'on dansait dans toutes les boîtes de New York. C'est comme ça que ça a commencé. Et ce succès, pour une fois, ne venait pas d'Amérique. Il venait de France, fait par un Africain. Et la chance a voulu que ce morceau passe. Maintenant, à la suite de ça, le marché a été envahi par les Cérones, par tous les gens qui font le disco maintenant. On oublie simplement que j'ai été à l'origine de ça. Alors, qu'on me dise que je fais du disco, que je récupère du disco, ça me fait un peu rire. Parce que moi, je n'ai pas changé ma manière de jouer. Je change des couleurs. Mais vous savez, on chante toujours la même chanson, comme on dit dans le métier. Mais les couleurs sont différentes.
Mais est-ce que le style disco avec donc ce rythme saccadé existait déjà dans Manu Dibongo?
Je recommence encore l'histoire du disco. Tu sais, le disco, en fait, ce n'est pas tellement le problème du rythme saccadé. On a mis ça en avant, mais il y a beaucoup de travail derrière le disco. Il y a la mélodie, il y a la façon de combiner les violons, les voix et tout ça pour que quelqu'un qui danse n'ait pas de problème pendant 10 minutes. Qu'il oublie et il faut que, en général, c'est long un disco, c'est 10-15 minutes. Mais si tu veux bien, si vous voulez bien,
si tu veux.
En Afrique, depuis très longtemps, on fait du disco. À l'époque, on faisait des disques de 3 minutes ici. Il était courant de voir des productions aéroises de 7-8 minutes, ce qui posait d'ailleurs un certain nombre de problèmes de gravure et tout ça aux maisons de disques. Pour la bonne raison qu'instinctivement, les Africains sentaient qu'il faut que ce soit lancinant, donc il faut que ce soit long pour que ça crée l'envoûtement, pour que les gens vraiment y dansent.
Mama kou, mama sa, mama kou, mama kou sa, mama kou, mama sa, mama kou sa, mama kou, mama sa, mama kou sa, mama kou, mama sa, mama kou sa.
Vous l'avez compris en entendant Manu Dibango, hein, qui a parfaitement raison quand il explique que les racines, la construction même de la musique africaine est sans doute assez propice à ce qu'invente ou réinvente, on redécouvre ou découvre tout simplement à la fois les DJ qui fleurissent à New York et leurs danseurs évidemment. Parce qu'en fait il y a presque une histoire double de cette ère pré-disco, celle des musiques qu'on joue qui est concrètement, complètement noir, et celle de ces fameux DJ. Il y a David Mancuso, on l'a dit, qui va, en même temps que son lieu, le Loft, donne le là, on peut dire, notamment en termes de découverte musicale, voir essaimer autour de lui des figures de DJ qui poussent en même temps que les histoires de ces fameux clubs, The Sanctuary, The Salvation, Arthur, se développent. Plusieurs générations de nouveaux DJ qui sont quasiment tous italo-américains, Capello, D'Acquisto, Grasso, Bobby Guattaro, Nicky Siano, qui sont quasiment tous d'origine italo-américaine. C'est avec eux que s'invente la profession de DJ, profession un peu branchée avec un statut social assez faible, mais plus élevé que celle de leurs parents. Tous ces gens-là sont la plupart du temps des fils d'immigrés qui ont grandi dans une assez grande pauvreté, une grande insécurité. Ils vont tous plus ou moins réussir à naviguer dans les méandres d'une new-yorkaise qui est encore très très marquée par la présence de la mafia et par les descentes de police, car très vite tous ces clubs vont attirer une nouvelle clientèle, une clientèle gay, une clientèle noire, une clientèle de Latino. C'est aussi ça qui sans doute va d'une certaine manière dessiner ce qui se joue sur une piste de danse. Car jusque-là, les clubs étaient des clubs hétéros, on y venait en couple, on dansait en couple. C'est aussi parce qu'elle attire une nouvelle clientèle de gens qui peuvent, veulent danser seuls, que la danse disco est le principe même de danser dans une montée où à la fois on est ensemble et à la fois on accède à un autre niveau de conscience. On a vraiment des passages totalement magiques, ou en tout cas très ésotériques sur ce qui se joue sur ces pistes de l'ère pré-disco. Tout ça, évidemment, va de pair avec un mouvement de libération sexuelle. Évidemment, tout ça se fait dans la douleur. Concrètement, les émeutes de Stonewall en 69 n'ont absolument pas marqué la fin hein, des violences policières sur les gays, sur les noirs et en plus sur les gays noirs, on peut le dire, de manière encore plus violente. Pas étonnant en tout cas que David Mancuso choisisse un nouveau titre après Soul Macusa à faire découvrir au reste de la ville de New York. On est en 72 et David Mancuso a mis la main sur un disque relativement obscur à l'époque. Il s'appelle Wild Safari et il est la production de plusieurs justement musiciens latinos ou espagnols qui se sont auto-baptisés Barabbas. Barabbas, c'est un personnage des évangiles qui est préféré par la foule à Jésus pour être libéré par Ponce Pilate. Wild Safari, un rythme de congas avec vraiment une identité latine très forte et des couches successives, un chant féminin assez hippie, un riff de guitare en rock mineur, une nappe d'orgue et allez hop, c'est parti. C'est le moment où cette ère pré-disco s'impose depuis la soirée Love Save the Days de ce DJ David Mancuso. Les titres qui célèbrent l'amour sous toutes leurs formes sont omniprésents. Love Train, Love Epidemic, Love is the Message, on vous l'a passé, qui sont des hymnes fondateurs du disco. Tant il est question de célébrer l'amour, sont pour la plupart issus de la ville de Philadelphie, on vous l'a dit. Et émerge une figure, celle de Barry White, qui va inventer une nouvelle soul assez orchestrale, assez sexy. Avec son trio vocal Love Unlimited, il va sortir un thème qui s'appelle Thème d'amour, Love Theme. Il est loin d'imaginer évidemment l'impact que va avoir ce titre instrumental sous les doigts de plusieurs DJ. Et c'est Nick Ciano, le DJ qui officie dans cette boîte qu'on appelle The Gallery, et DJ David Rodriguez, eux aussi, qui vont découvrir ce CD dans une poubelle, alors que le CD était en train de partir à la benne. Pochette bleue, trois femmes noires. Ils prennent un exemplaire et vont le poser sur la platine. Cette montée de cordes que vous allez entendre jouée par un orchestre symphonique va donner une autre couleur à la disco qu'ils sont en train de coudre, de pratiquer. Grâce à son succès dans les soirées de New York, le disque va se vendre par millions et devenir numéro 1 du Top US. C'est la toute première fois qu'un morceau popularisé par des DJ va atteindre une telle place. Vous l'avez compris, le disco, c'est donc la coexistence et la naissance, la convergence en réalité de plusieurs pratiques, de l'émergence de plusieurs figures, d'une part celle des DJ, majoritairement blancs, majoritairement des Italo-Américains, quelques femmes, on y reviendra plus tard un jour, mais très peu de femmes au poste de DJ, pourtant elles ont tenté de s'imposer, mais avec beaucoup de difficultés. D'autre part, des sons, la plupart du temps afro, latin ou psychédéliques, grosse préférence pour la soul et le funk, qui sont mixés, cousus par des DJ qui vont de plus en plus faire de trouvailles, des trouvailles sonores pour avoir le plus en plus de marge sur la manière dont ils cousent entre eux ces sons. pour créer en fait des passages entiers qui sont de véritables nouveaux sons et qui chaque soir sont réinventés. Alors on va pas revenir ici sur les milliards de mini-innovations qui se jouent du côté des DJ, augmenter les Twitter, réussir à avoir un casque pour le son qui entre, un casque pour le son qui sort, le grand jeu sur évidemment des rythmiques qui parfois se contredisent les unes les autres pour créer une rythmique qui pendant une minute ou deux va être totalement pionnière et disparaître à jamais. Le fait est qu'à partir de 73, on est un an après ce son de Barry White, le disco va devenir un style de musique à part entière. Et ce qui va le distinguer, c'est ce qu'on a appelé plus tard le disco beat. C'est là qu'à partir de là, vraiment, on peut reconnaître un son disco, même si on n'est pas tout à fait conscient de ce qu'il joue, on sait que c'est du disco. Il y a deux personnes qui ont les mêmes trouvailles à peu près au même moment. Il y a d'abord Norman Whitfield, mais surtout Earl Young, qui joue, du coup, qui va inventer quelque chose de fondamental, c'est-à-dire une espèce de contretemps joué par une cymbale Charleston et une caisse claire sur les deuxième et quatrième temps, une recette basique, évidemment imposée par les batteurs, qui va, de manière générale, être un peu décliné sous toute une foule de variantes. Il se trouve que Earl Young va décider qu'il est l'inventeur, et vous allez voir que c'est toute la beauté de ce genre dans cette série qu'on ouvre aujourd'hui, c'est que tout le monde revendique d'une certaine manière la parenté de quelque chose qui serait fondamental pour le disco. Earl Young, le batteur de Howl Jones and the Blue Note, va l'inventer dans la chanson The Love I Lost.
When I did The Love I Lost, disco wasn't even around.
Quand j'ai fait The Love I Lost, le disco n'existait pas en fait. Moi j'avais l'idée qu'il fallait un cut pour essayer de créer un son qui soit encore plus facile à danser. Je crois que c'est comme ça qu'on a inventé la disco. Le classique c'était 4 sur le sol avec la grosse caisse. Et moi j'ai inventé avec la Charleston 2 contretemps.
What I did was a change it was with the sock symbol. With either with a
ça a tout changé, ça a inventé, créé finalement ce qu'on appelle aujourd'hui le disco beat. We'll be right back. 123 BPM pour ce morceau qui en fait n'était pas destiné à changer l'histoire de la musique. Initialement, c'était conçu comme une balade, et puis cette trouvaille en fait rythmique du batteur Earl Young va donner cette espèce de beat qu'on n'appelle pas encore le disco beat, mais qui immédiatement va faire mouche. Alors c'est intéressant parce qu'ici il est question bien d'amour, mais d'un amour perdu, hein, l'amour que j'ai perdu. Et on a cette combinaison assez géniale de ce disco beat extrêmement dansant, d'une thématique un peu plus nostalgique, triste, et donc pour essayer de donner vie à tout ça, un très très bon chanteur, Teddy Pendergrass, qui trouve une forme d'équilibre avec toute une tradition gospel dans la voix. On l'entend, hein, la soul, mais uniquement dans la voix. Quasiment le beat qui va rester, qui sera l'héritage de cette chanson, lui, par contre, vous allez le retrouver, et vous le retrouvez y compris chez Juliette Armanet, au début des années 2020. Le fait est que quelques mois après la sortie de ce morceau, il y a un groupe très important, on en revient encore à The Temptation, qui va en fait s'engouffrer dans la brèche et reprendre ce disco beat, et d'ailleurs lui donner ses lettres de noblesse, avec un album Masterpiece, tout simplement chef-d'œuvre. On est en 73 et un son Law of the Land qui reprend exactement le fameux disco beat. C'est un single qui était sorti au début uniquement en Angleterre, mais qui va être repéré là encore par des DJ new-yorkais qui sont en fait à la recherche de ce fameux beat parce qu'ils ont remarqué qu'il se danse très bien. En l'occurrence, le morceau combine pas mal d'éléments à la fois novateurs et complètement fondateurs, puisque le groove est basé sur un seul accord. Et il y a un break au milieu du morceau avec une ligne de basse qui est construite sur une mesure et qui est répétée pendant 5 minutes, ce qui va d'une certaine manière donner en fait ce là d'un beat qui marche et qui reste complètement hypnotique, habillage orchestral assez génial, on peut l'entendre. Toute la question et toute la réussite de son qui va aussi faire des émules, hein, dans ce qui devient une production officiellement disco. Il n'y a pas encore de genre disco dans les maisons de disques avant 74, c'est-à-dire l'année suivante. C'est justement toute cette nuance entrée, retrait, de voix, de cordes, des effets psychédéliques. On est vraiment dans une musique à danser et qui se danse encore mieux quand on a pris un petit peu de drogue. You either win or lose. The Law of the Land serait le dernier morceau joué par David Mancuso dans le loft avant de se faire expulser. Le fait est qu'on est en 73 et que c'est en 74 en fait que véritablement on arrive à une forme d'acmé de cette disco qui en tout cas est reconnue en tant que telle, qui commence à avoir des signes distinctifs à ce stade-là. Ça fait déjà 5 ans que toute une foule de DJ se relaient, font exister ce genre et cette réalité, celle qui consiste à danser. 74, c'est l'année d'une foule en réalité de tubes qui vont être de plus en plus similaires, en tout cas qui tous marquent concrètement une exploitation de ce genre qu'on appelle le disco. Parmi les ovnis musicaux qui vont beaucoup marquer la période, il y a ce Rock the Boat de The Hughes Corporation, qui au départ n'avait absolument pas convaincu les dirigeants de RCA quand il a été proposé par les musiciens qui l'avaient produit, tout ça avec un arrangeur qui était déjà celui de Barry White, car c'est un titre considéré comme en fait trop dansant, chanson qui prend comme métaphore un voyage en bateau pour symboliser là encore quoi ? Eh bien toujours l'amour, refrain accrocheur, harmonie vocale très élaborée, des cordes, des cuivres assez discrets finalement. Et une mesure à 7 temps, 7-4, qui permet aux chanteurs de retomber sur leurs pieds, le tout dans un titre profondément dansant, qui va avoir un succès, là encore, extrêmement important sur le dance floor.
Our voyage of love began. Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me.
Our love is like a ship on the ocean.
And I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through.
Our love is like a ship on the ocean.
Cette chanson des Hughes Corporation va définitivement installer le genre disco en tant que genre. Et c'est une brèche dans laquelle vont s'engouffrer toute une série de producteurs. Et là, ça se joue plutôt au niveau des maisons de disques. C'est en ça que le genre musical s'installe, plus qu'une pratique, plus qu'un mouvement. On est au cœur de ce mouvement disco. Et un hymne, 74, sous une foule de succès, dont celui-ci, dont l'incroyable, l'inarable Kung Fu Fighting. Il se trouve que c'est aussi le début de l'ère de celles qu'on va appeler les disco divas. Et tout cela commence avec l'incroyable Gloria Gaynor, qui est en réalité une chanteuse issue évidemment des orchestres de jazz, qui s'est mise à chanter très très jeune, carrière de chanteuse pour fuir un foyer où elle avait été victime d'une agression sexuelle, qui a commencé essentiellement dans un groupe de jazz pop dans les années 60. Et qui va exploser grâce à une chanson Never Can Say Goodbye, qui lorsqu'elle l'entend pour la première fois, remixée par le DJ Moulton pour son premier album très disco, va être assez déçue parce que c'est pas du tout sa politique et ses habitudes. Never Can Say Goodbye, qui va se classer numéro 1 du premier top disco, car c'est la première année 74 qu'un top disco existe. Ça va être évidemment une consécration pour cette chanteuse qui avait initialement repris une chanson qui était une ballade assez triste des Jackson 5. On a dans ce morceau à la fois la reprise du fameux beat disco et puis la disco très orchestrale imposée par Barry White et la Philadelphia Soul, qui réinvente complètement cette chanson initialement quand même assez langoureuse ou élégiaque, avec un tandem rythmique hyper efficace qui va garder le groove disco pendant les 6 minutes de la version album qu'on ne pourra pas vous passer. Écoutez, Gloria Gaynor nous parlait justement de la manière dont elle se vit comme celle qui a marqué peut-être l'acmé, la naissance et puis la mort, une espèce de parturiente de la disco dans cette courte archive. J'ai été bénie avec une position complètement folle. Mes deux plus grands hits, Never Can Say Goodbye et I Will Survive, ont respectivement marqué le début et la fin de l'ère la plus brillante du disco. I Will Survive signalait presque la fin.
I Will Survive.
I Will Survive. C'est une chanson qui, comme la musique disco, a pu toucher toutes les nationalités, n'importe quel âge, race, n'importe quelle préférence sexuelle. Tout le monde l'aime parce que c'est positif, parce que ça donne du pouvoir, parce que ça encourage, et parce qu'il embrasse ce titre, la ténacité des êtres humains. I Will Survive, c'est une autre histoire, c'est celle de ce que Gloria Gaynor appelle la fin du disco, car là, on a vécu les 4 années, en fait, de l'essor, de la naissance de ce genre musical, de cette pratique qui vont complètement bouleverser, c'est ça principalement son héritage, la manière dont on danse, la manière dont on fait la fête, encore aujourd'hui en 2025, tout a changé. Pourtant, vous allez le voir, après ces 4 années où se rejoignent justement des personnalités, des personnes, des danseurs de tous les âges, de toutes les nationalités, de toutes les ethnies, de toutes les préférences sexuelles, vont succéder une période si faste que sans doute peut-être elle engendre ce qui se passera ensuite, c'est-à-dire un désaveu, un rejet, un backlash, comme on dit, à la fois de la musique et du style de vie, du type aussi d'idéaux que cette musique a permis peut-être de mettre en œuvre, le disco qui se vit dans ses 4 premières années comme un lieu à l'image du dance floor, de démocratie, de fraternité totale. Écoutons, pour se quitter, Gloria Gaynor et ce fameux Never Can Say Goodbye, qui sera la chanson la plus jouée et la plus écoutée en 1974.
Every time I think I've had enough, I stop.
impossible de se dire au revoir et pourtant nous le faisons à l'issue de ce premier épisode consacré à notre série disco. C'est un au revoir, mais il y aura une partie 2 évidemment. On vous invite évidemment à aller voir l'exposition à la Philharmonie de Paris, à lire, à découvrir le livre de Tim Lawrence, Love Save the Day, paru chez les éditions Audimat, et à lire aussi, à retrouver si vous en avez envie, 100 hits disco de 72 à nos jours, c'est Belkacem Mezian, un livre qui reparaît aux éditions Le Mot et le Reste. Merci mille fois à Laura Dutèche-Pérez, l'attachée de production de la série musicale, à Thomas Jost qui a réalisé cet épisode, ainsi qu'à Alex Dang qui était aux manettes aujourd'hui. Abonnez-vous au podcast de la série musicale pour retrouver tous les épisodes et toutes les séries que nous vous proposons avec joie.